Création matérielle et origine de notre étincelle d'esprit. Article paru le 10 octobre 2011. Compte tenu du cafouillage courant entre l'esprit, la matière, l'âme, les différents sois et toutes les dénominations selon les points de vue, je vous propose une version extrêmement allégée afin de vous éviter l'obésité spirituelle qui nous pend tous au nez. En effet, par exemple, une soucoupe volante sera décrite très différemment selon que vous êtes un aborigène au courant de ses origines stellaires, un rural affamé et illettré, un urbain en plein délit de Nintendo, un scientifique à la botte des théories reconnues ou une personne sur le chemin de la voie intérieure. La soucoupe, elle, n'a pas changé, d'un iota. Elle n'a fait que passer par erreur, dans ce bac à sable, que nous apprécions plus ou moins selon nos humeurs. Bref, il en est de même concernant la description de ce qui se passe en nous. La soucoupe volante, style assiette sur le crâne, qui fait que pour certains, nous sommes des fous, tandis que pour d'autres, on sera un saint parce que le bord de l'assiette irisée leur fera voir comme une auréole. En clair, c'est le foutoir. Alors je me suis permis de vous faire quelques petits croquis très simples pour vous démontrer que tous les mystères contenus dans des tonnes de papiers philosophiques et religieux se résument à quasiment rien du tout. Juste quelques gribouillis sur la paroi de la grotte de l'ignorance. En effet, l'homo sapiens est devenu l'homo sapiens, tellement il est convaincu que le fond de sa grotte est plus sécuritaire que de mettre le nez dehors et voir des soucoupes volantes. Néanmoins, il est heureux que quelques artistes tentent de faire de la déco lumineuse dans l'obscurité régnante et lourde de cette planète humide. Voici donc le résumé du résumé où nous pouvons voir dans la première vidéo, dans ce premier dessin, dans la colonne de gauche, je vous ai représenté la matière, c'est-à-dire le support où l'esprit va pouvoir faire des risettes et s'en donner à cœur joie. Expérimenter reste donc bien l'ultime objectif de l'un. J'en profite au passage pour dire que l'un a deux facettes, l'une masculine et l'autre féminine. On aurait pu s'en douter. La masculine, c'est l'esprit, tandis que la féminine, c'est la source. La colonne de gauche représente le support, la matière, et la colonne de droite, c'est le programme, l'esprit. Comme de bien entendu, cela va de pair. Ainsi, à chaque division ou ramification de l'esprit, il existe un niveau matériel équivalent. Ainsi, plus on s'éloigne de la source, le tronc, et plus l'esprit se divise en petites parties, selon la taille des branches, pour arriver au stade final qu'est la feuille, soit la particule d'esprit qui est coincée en notre cœur physique de préhumain. Comme tout cela est régi par des règles infaillibles, il faut comprendre que l'identité d'un esprit entier dans sa taille la plus petite est ce que l'on appelle un esprit directeur. Il est généralement logé dans un soleil, équivalent à celui d'un univers local ou système solaire. Je rappelle qu'un soleil n'existe que pour expérimenter une idée précise, et une seule. Il me semble avoir déjà écrit tout ça quelque part, je ne vais donc pas me répéter. Cet esprit directeur est bien sûr totalement androgyne à l'image de l'un. Il y aura donc une partie féminine, le grand soi, la vibration, la partie non incarnée, et la partie masculine, le petit soi, la matière, la partie incarnée. Chacune de ces deux parties sont elles-mêmes androgynes, car la loi de l'équilibre l'oblige. Elle se subdivise matériellement parlant en deux parties, ce qui donne ce que j'ai appelé le grand soi essence, le féminin féminin de l'esprit directeur, le grand soi énergie, le féminin masculin, le soi supérieur, qui est le masculin féminin, et le soi inférieur, le masculin masculin. Le tout est résumé dans le symbole hyper classique du yin-yang où l'enveloppe correspond à l'individualité de cet esprit et où chaque partie tourne autour du même centre de l'un. Donc nous le voyons sur ce deuxième dessin. Cela étant dit, voyons comment cela s'articule avec les dimensions, les moteurs et les chakras du corps physique. J'en ai profité pour indiquer ce que l'on appelle les voiles de l'oubli dont j'ai parlé dans cet article. Et puis, juste un petit rappel pour dire qu'à un esprit directeur est rattaché 8 possibilités d'incarnation via 8 particules d'esprit distinctes. Dit autrement, au mieux, il y a 7 autres vous qui sont incarnés sur cette terre par les temps qui courent. En observant avec attention, et surtout votre cœur intuitif, cette troisième planche, vous pouvez sentir que les dimensions allant de 1 à 24 possèdent une logique d'incarnation spécifique. En effet, le grand soi essence est pure vibration, pure lumière, où aucune forme, quelle qu'elle soit, ne peut être prise, car aucun élément masculin ne peut lui donner une forme, un espace. Par contre, la partie du grand soi, énergie, entre la 13e et la 18e dimension, peut prendre n'importe quelle forme selon les nécessités du moment. Ainsi, quand des êtres de lumière nous rencontrent, ils peuvent prendre l'apparence qui nous est acceptable. Pour cela, il leur suffit de prendre les images que l'on a dans notre crâne. C'est aussi pour cela que la notion de nos visions est de même nature que les rêves. En fait, on ne peut savoir où est le réel de l'irréel, sauf lorsque notre conscience observe le déroulement des choses. Je dis le grand soi, car dire le soi, si on veut faire court, amène l'ambiguïté, lorsqu'on parle de savoir si c'est en majuscule ou en minuscule. La raison de ce pléonasme apparent, car je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous lisons à voix haute dans notre tête. Bref, ce grand soi se balade donc virtuellement entre Papa Soleil et Grand-Père Alcyone. À ce titre, cette partie de nous est l'interlocutrice privilégiée avec la source, puisque au-delà, nous ne pouvons plus en prendre conscience en tant qu'esprit directeur. Cependant, quand nous disons « maison », nous disons comme un retour à nos origines stellaires, que sont les constellations qui appartiennent forcément à la galaxie et qui est le jardin de Grand-Père. Après, entre le Soleil et notre planète, nous y trouvons la partie incarnée sous une forme très physique, le soi inférieur, le petit soi inférieur, le masculin masculin, le corps de matière, fabriqué à partir des composants d'Urantia Gaïa. Dit autrement, entre elle et nous, il n'y a aucun secret, mais qu'en plus, c'est avec nous qu'elle danse. Cependant, c'est notre petit soi supérieur qui donne normalement les consignes. Cette partie est aussi connue comme étant notre double, notre frère atomique, notre essence, celle qui nous mènera à la maison, celle qui est notre GPS divin. Elle est malheureusement souvent associée à l'âme, mais comme je vous l'ai dit bien des fois, l'âme n'est qu'une projection religieuse humaine au même titre que Dieu. Ce sont des égrégores de peur et d'emprisonnement où la dualité bat son plein. En effet, essayer de dire à un taulard né en tôle qu'il n'a connu que la tôle, qu'il est prisonnier et qu'il lui faut s'échapper, pour lui, la tôle, c'est son monde. Et si vous essayez de le convaincre qu'il a tort et qu'il n'a rien compris, il n'hésitera pas longtemps à vous infliger ce qu'il connaît de la tôle. La loi du plus fort, la loi du muscle, la loi de l'intimidation, la loi du mensonge, la loi de la survie. Dit autrement, tant que vous resterez avec le vocabulaire de taulard, il vous sera difficile de vous en échapper, car à chaque fois la nostalgie de la tôle viendra vous visiter. Ainsi, le premier voile de l'oubli que j'ai représenté en vert pointillé correspond au passage de la prise de conscience que vous êtes dans une tôle. Ce n'est qu'en abandonnant progressivement vos peurs liées au soi inférieur qui se sont séparées de tout et sans aucun objectif de vie, sauf celui qu'on lui a donné, style boulot dodo métro ou travail, famille, patrie, que vous découvrirez qu'il existe des espaces de paix et d'amour consistants. C'est ainsi que le moteur du ciel vous fera découvrir d'autres mondes plus subtils, style 4D, 5D, 6D. Et puis, concernant le second voile de l'oubli, ce dernier est directement proportionnel au niveau de conscience de l'humanité, alors que le premier voile est totalement personnel. Ce deuxième voile, bombardé par les nouvelles énergies, balancé par les instants supérieurs, c'est-à-dire nous-mêmes, mais à partir des autres dimensions, s'amenuise et craque de partout. Il faut dire que l'heure des comptes est arrivée, et que, pour une partie d'entre nous, il a été clairement spécifié que c'était fini de jouer aux zombies de service et qu'il fallait remettre le service d'éclairage en marche. Ainsi, de la petite flamme vacillante au fond de la grotte de l'ignorance, un nombre certain d'entre nous ont bravé les interdictions d'aller mettre le nez dehors, là où il y a de la lumière. La petite flamme s'est fait enfermer dans une lampe de certitude, un verre transparent qui la protégeait de la soufflante protestative des préhumains jouant du souffle de la raison. Je vous rassure, pour ma part, ils sont tous passés à l'hyperventilation, et donc avec des troubles associés. Car c'est eux qui l'ont voulu. En effet, lorsqu'on écoute sa petite voix sans broncher, le verre de la lampe est incassable, toute cette sensation d'invincibilité, dont parlent certains enseignements. Vous savez qu'aucun préhumain ne vous fera détourner de votre chemin, même si elle est mignonne, tout plein, et qu'elle abuse de ses charmes à fond. Rien ne peut vous dérouter quand vous suivez votre intime conviction. C'est sûr que trouver la porte de sortie de la tôle n'est pas évidente, mais si vous avez quand même réussi à atteindre la fenêtre de l'illumination, vous avez vu la lumière du jour, plus rien au monde ne pourra vous le faire oublier. C'est alors que le premier voile de l'oubli se verra définitivement percé de plus en plus par votre volonté et intention de passer de l'état du rampant, la chenille, à celui du volant, le papillon. Ceux qui ont survécu au camp de la mort ont été principalement ceux qui ont vu la lumière au-delà de la noirceur ambiante. L'espoir fait vivre, dit-on. Mais pour être plus correct, il faudrait que l'espoir fait survivre. Ce n'est qu'ensuite, quand l'on marche dans le couloir de l'être, que l'on commence à découvrir ce que veut dire vivre. Bien, je vais m'en arrêter là pour l'instant, mais la suite est dans les tuyaux et je vous parlerai des différents filtres mis en place pour que la luminosité d'Alcyone ne vienne pas nous griller définitivement et surtout nous sublimer, évaporer carrément. Eh oui, entre voir une lueur et regarder le soleil en face, il y a quelques précautions d'usage à prendre et qui sont inévitables.